Voilà, j'ai la joie de vous présenter Isabelle de Andia, qui elle aussi est vraiment une habituée de la maison. Elle est venue déjà très très souvent ici pour des colloques et organisés par le studio, mais par Notre-Dame de Vie. Elle est agrégée en philosophie, docteur en philosophie et théologie, avec des travaux sur Irénée de Lyon et Denis l'Areopagite. Elle est vierge consacrée. Elle travaille, elle était au CNRS, maintenant elle est à la retraite. Donc docteur de recherche au CNRS.
Pas pour le travail.
Pas pour le travail. Et membre de l'Académie pontificale de théologie aussi. Et voilà, vous avez ici sa dernière cross-publication, un livre qui a du poids. Vraiment. Sur La voie et le voyageur, essai d'anthropologie de la vie spirituelle de 2012. Donc on peut vous conseiller. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des métamorphoses du papillon, intériorité et transformation de l'âme dans les demeures de Thérèse d'Avila. Merci beaucoup d'être avec nous.
Les métamorphoses du pauvre petit papillon, cinquième et septième demeure. Métamorphose est un mot qui a une longue histoire dans la mythologie, transformation des arbres en animaux et des hommes en dieux, et dans la littérature. On pense aux métamorphoses d'Ovide, 1er siècle avant Jésus-Christ, grand poème sur les transformations régressives de l'homme en pierre, arbre et animal, et au bref récit de Franz Kafka, la métamorphose dont le symbolisme est autobiographique. À travers sa vie, l'homme devient un insecte sur un fumier, mais aussi christologique, comme l'indique Sicari. Métamorphosis signifie également transfiguration, comme dans la transfiguration du Christ, où il apparaît à ses disciples dans toute sa gloire, et transformation, comme dans la résurrection, où le corruptible devient incorruptible, le périssable impérissable. Cependant, Thérèse d'Avila n'emploie pas le terme métamorphose pour décrire le processus de transformation du ver en papillon. Elle dit seulement que le ver se change en papillon blanc, septième demeure. Ce symbole de la métamorphose du papillon est celui du passage de l'ancienne vie à la nouvelle vie. C'est le symbole de la transformation mystique ou encore de la divinisation. Je voudrais dans un premier moment commenter l'histoire du papillon dans les cinquième, sixième et septième demeures et le symbolisme de cette histoire avant de présenter son fondement autobiographique et de montrer ensuite rapidement son sens baptismal. Première partie, l'histoire du pauvre petit papillon, les cinquièmes demeures. Le passage des quatrièmes aux cinquièmes demeures est celui de l'oraison de quiétude à l'oraison d'union qui sera l'objet des trois dernières demeures. Thérèse commence par montrer la différence entre l'oraison de quiétude et l'oraison d'union. L'oraison précédente, l'oraison de quiétude, ressemble à un songe. Ici, on est endormi et même profondément endormi aux choses de la terre et à soi-même. Et de ce fait, pendant la courte durée de l'union, on est comme privé de sentiments. Quand on le voudrait, on se trouve hors d'état de pensée. Aussi, nul besoin d'artifice pour suspendre l'activité de son esprit. L'oraison de quiétude ressemble à un songe, l'oraison d'union à un sommeil profond sans sentiment ni pensée. C'est un état passif et il n'est nul besoin d'artifice pour suspendre l'activité de son esprit, comme le pensent les recogidos. Et si l'on aime, on ne sait pas comment on aime, ni ce qu'on aime, ni ce qu'on désire. Enfin, on est absolument mort au monde pour vivre davantage en Dieu. C'est une mort délicieuse. On est mort au monde pour vivre davantage en Dieu. Voilà le thème central qui sera développé tout au long de ces dernières demeures. Et cette mort est une mort délicieuse, car c'est une mort d'amour. Autre point, cette union avec Dieu se fait dans le centre de l'âme. À propos de notre impuissance, dit Thérèse, je me souviens de ces paroles de l'épouse dans les cantiques que vous connaissez certainement. Le roi m'a conduite dans ses celliers, ou plutôt, je crois, m'a introduite. Vous voyez, elle ne dit pas qu'elle s'y est rendue elle-même. Elle dit encore qu'elle allait de côté et d'autre cherchant son bien-aimé. À mon sens, cette oraison d'union est précisément le cellier où le Seigneur nous fait entrer quand il le veut et comme il le veut. Quels que puissent être nos efforts, la porte nous reste fermée. C'est à notre Seigneur de nous y introduire, de nous placer lui-même dans le centre de notre âme. Ce qu'il veut, c'est pénétrer dans le centre de l'âme sans passer par aucune porte, de même qu'il entra chez les disciples en leur disant « Pax vobis », de même qu'il sortit du sépulcre sans enlever la pierre. Vous verrez plus loin comment sa majesté veut que l'âme jouisse de sa présence au centre d'elle-même, plus pleinement qu'elle ne le fait ici, ce sera la dernière demeure. L'exemple de l'apparition du Christ ressuscité à ses disciples dans une pièce où toutes les portes étaient fermées par peur des Juifs fait comprendre la présence du Christ au centre de l'âme où il fait en quelque sorte entrer l'âme avec lui. Au second chapitre, Thérèse donne une comparaison propre à expliquer l'oraison d'union et explique les effets que cette oraison produit dans l'âme. Cette comparaison est celle de la métamorphose du papillon au paragraphe, des paragraphes 2 à 9. Thérèse va nous raconter l'histoire du papillon de sa naissance, sa croissance et la construction de sa petite coque jusqu'à sa mort et à son envol lorsque les ailes lui auront poussé. Naissance et croissance. Thérèse prend l'exemple du ver à soie qu'elle n'a pas vu, mais dont elle a seulement entendu raconter l'histoire. Je cite, « Lorsque les mûriers commencent à se couvrir de feuilles, cette semence, grâce à la chaleur, commence également à prendre vie, car avant qu'ait paru l'aliment dont elle doit se nourrir, elle demeure comme morte. Les petits vers, une fois éclos, se nourrissent de feuilles de mûrier. Quand ils sont devenus grands, on place devant eux de petites branches sur lesquelles ils filent avec leur petite bouche la soie qu'ils tirent d'eux-mêmes. Ils en forment de petites coques très serrées dans lesquelles ils se renferment. Chacun de ces vers, ils sont grands et très laids, termine sa vie. Et alors, de chacune de ces coques, s'échappe un papillon blanc très gracieux. » Elle en fait ensuite l'application de cette histoire à l'âme. L'âme, dont ce ver est l'image, vient à l'existence quand, par la chaleur de l'Esprit Saint, elle commence à profiter du secours général que Dieu donne à tous et à se servir des remèdes qu'il a laissés dans son Église. Dès que le ver est devenu grand, il se met, comme nous l'avons vu, à faire la soie et à construire la maison où il doit mourir. Je voudrais faire comprendre que pour l'âme, cette maison, c'est Jésus-Christ. Je crois avoir lu quelque part, ou peut-être entendu dire, que notre vie est cachée en Jésus-Christ ou en Dieu, ce qui est tout un, ou bien que Jésus-Christ est notre vie. La citation qu'elle a entendue dire est celle de l'Épître aux Colossiens, sur laquelle nous reviendrons. « Vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu, quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie. » Cette fois, la maison ou la demeure de l'âme, c'est le Christ lui-même. Voilà ce que nous pouvons faire pour que Dieu devienne notre demeure, ainsi qu'elle le devient dans cette oraison d'union. Voilà comment nous pouvons travailler nous-mêmes à la bâtir. À peine aurons-nous fait tout ce qui est en notre pouvoir, Dieu daignera unir sa grandeur à ce faible travail. Il y a donc des œuvres à faire. Comme le papillon tisse sa coque, l'âme doit construire sa maison. Courage donc, mes filles, à l'œuvre, sans retard, tissons notre petite coque en renonçant à notre propre amour propre, à notre volonté, à tout attachement aux choses de la terre, en produisant des œuvres de pénitence, de raison, de mortification, d'obéissance et d'autres encore que vous connaissez bien. Ah, je vous en prie, faisons tout le bien possible et dont on nous a enseigné la pratique. Paragraphe 6. La fin de ces travaux ou de ces œuvres est la mort du ver à soie. Et puis qu'il meure ce ver, comme le fait le ver à soie, après avoir accompli l'ouvrage pour lequel il a été créé. Vous saurez alors comment on voit Dieu et comment on s'abîme dans ses grandeurs. De même que le petit ver s'ensevelit dans sa coque, remarquez bien en disant qu'on voit Dieu, je l'entends de la manière dont il se donne à goûter dans cet état d'union. Paragraphe 6. Est-il vrai que le ver à soie meurt dans sa coque ? Non, mais la larve se transforme dans le corps du papillon. Comme pas plus que Thérèse, je n'ai jamais vu de ver à soie, j'ai dû me reporter à l'article Lépidoptère de l'Encyclopédia Universalis pour connaître la vie du ver à soie. Le ver à soie se transforme dans sa coque en un papillon blanc, lourd et incapable de voler. Et après avoir pondu des centaines d'œufs, il meurt. La force impérative des paroles de Thérèse, qu'il meure ce ver, donne à la mort le sens mystique de mort-résurrection. Comme le Christ est mort et a été enseveli au tombeau, avant de ressusciter le troisième jour, le petit ver s'ensevelit dans sa coque, la coque est son tombeau d'où il renaîtra papillon. Je cite. « Voyons maintenant, dit-elle, ce que devient ce ver. Car c'est pour en venir là que j'ai dit tout le reste, ce qu'il devient. Mais lorsqu'il est entré dans cette oraison, qu'il est entièrement mort au monde, il se change en petit papillon blanc. Ô puissance divine, quel état que celui d'une âme qui vient d'être plongée dans la grandeur de Dieu et si étroitement unie pendant un si court espace de temps, car selon moi cette union ne dépasse pas une demi-heure, je vous le déclare en toute vérité, cette âme ne se reconnaît plus elle-même. Voyez la différence qu'il y a entre un vilain ver et un petit papillon blanc. Eh bien, c'est la même chose. Cette âme ne sait pas comment elle a pu mériter un si grand bien. Je veux dire, d'où il a pu lui venir, car elle sait parfaitement qu'elle ne l'a pas mérité. Elle sent un désir qui la consume de louer Dieu et d'affronter pour lui mille morts. La voilà qui aspire à porter de grandes croix, et ce désir est irrésistible. Paragraphe 7. La condition du changement ou la métamorphose du ver en papillon blanc est la mort au monde. Et cependant, l'âme sait parfaitement qu'elle n'a pas mérité un si grand bien, car cette mort est encore une grâce. L'âme ne se reconnaît plus elle-même, elle ne craint plus la mort et elle est établie dans la paix, elle sent un désir qui la consume, car le désir lui-même est une mort, une mort sur la croix. Mais le désir est aussi un envol. Voilà que des ailes ont poussé au papillon blanc. Ces ailes sont les ailes du désir, et ces désirs sont immenses. Je cite, « Oh, quel n'est pas le trouble de ce petit papillon ! Bien que pourtant il n'ait jamais joui de plus de calme et de repos, c'est une chose étrange de le voir ne sachant plus où s'arrêter et se poser. Après avoir goûté un tel séjour, tout ce qu'il aperçoit sur la terre lui déplaît. Il méprise maintenant les œuvres qu'il accomplissait, en étant encore vert et qui consistait à tisser peu à peu sa coque. Des ailes lui ont poussé. Se sentant capable de voler, comment se contenterait-il d'aller pas à pas? Tout ce que l'âme peut faire pour Dieu lui semble peu de chose tant ses désirs sont immenses. » Paragraphe 8. Et encore, il ne faut donc pas s'étonner si ce petit papillon se trouve tout dépaysé au milieu des choses de ce monde, cherche à se poser quelque part. Mais où ira-t-il ce pauvre petit ? Paragraphe 9. Au sein même du calme et du repos, Thérèse parle de trouble et de dépaysement. L'âme est si bien morte au monde qu'elle se sent dépaysée en ce monde qui ne peut contenir ses désirs. On entend la voix de Thérèse lorsqu'elle dit « Mais où ira-t-il ce pauvre petit papillon ? Et si ce papillon blanc est elle-même, quelle confidence nous fait-elle ? Et quelle est cette douleur qui semble hacher et moudre l'âme sans qu'elle y contribue en rien, parfois même sans qu'elle le désire. » Paragraphe 11. Eh bien, c'est encore une grâce que Dieu lui fait, pour que l'âme sache qu'elle est à lui. Je cite, « Dieu lui donne du sien, c'est-à-dire les dispositions où son fils a été pendant son existence mortelle, et il ne peut lui accorder une plus grande grâce, qui plus que ce divin fils a désiré quitter cette vie, il l'a bien montré à la scène, lorsqu'il a dit « J'ai désiré d'un grand désir ». Paragraphe 13. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Thérèse interprète le désir du Christ de manger la Pâque comme un désir de quitter cette vie ou de mourir. Les désirs immenses du petit papillon sont les désirs du Christ lui-même qu'il donne en partage à l'âme, ce qui est une très grande grâce. Au chapitre 3, Thérèse revient sur le même sujet. Autre genre d'union que l'âme peut acquérir avec la grâce de Dieu, pour y arriver, l'amour du prochain est absolument nécessaire. Revenons à notre petit papillon et voyons quelque chose des dons que Dieu accorde en cet état d'union, dit-elle. Il est bien entendu que l'âme doit s'efforcer d'avancer toujours dans le service de notre Seigneur et dans la connaissance d'elle-même, car si elle se contente de recevoir cette faveur, si se croyant désormais en sûreté, elle vient à se négliger et à s'écarter du chemin du ciel, c'est-à-dire de l'observation des commandements, elle aura le sort du papillon né du ver de soie qui, tout en laissant une semence qui produira d'autres papillons, demeure mort à jamais. Le chemin du ciel, c'est l'observation des commandements. Et la semence qui produira d'autres papillons est le bien que l'âme fait aux autres alors qu'elle se néglige elle-même. Au paragraphe suivant, Thérèse écrit « J'ai connu une personne à qui une semblable chose est arrivée » et cette personne est elle-même, comme elle l'a écrit au chapitre 7 du livre de la vie. La mise à mort du ver de soie. Enfin, Thérèse revient sur la nécessité de la mort du ver à soie et sur le fait que dans la vie ordinaire, c'est nous-mêmes qui devons le mettre à mort. Je cite. « Mais remarquez bien ceci, mes filles, il est nécessaire que le ver meure. Et ici, il vous en coûtera davantage. Par cette autre voie, la vie si nouvelle où l'on se trouve introduit, aide beaucoup le ver à mourir. Il faut que ce soit nous-mêmes qui, sans être affranchis de la vie ordinaire, lui donnions la mort. J'avoue que c'est beaucoup plus pénible, mais cette souffrance a son prix et si l'on remporte la victoire, la récompense sera plus grande. Que l'on puisse y arriver, c'est indubitable, pourvu que l'union à la volonté de Dieu soit réelle. C'est là l'union que j'ai désirée toute ma vie, celle que je ne cesse de demander à notre Seigneur. C'est aussi la voie la plus facile à connaître et la plus sûre. » Paragraphe 5. La mise à mort du ver se fait par l'introduction de l'âme dans la vie nouvelle, sans pourtant quitter la vie ordinaire. Et cela se fait par l'union à la volonté de Dieu. C'est une victoire de la vie sur la mort. L'image du papillon se retrouve encore 3 fois dans les 6e demeures et 3 fois dans les 7e demeures. Les 6e demeures. Le second chapitre porte comme titre « Divers modes par lesquels notre Seigneur réveille l'âme ». Nous avons bien abandonné, me semble-t-il, dit-elle, notre petit papillon. Il n'en est rien, cependant, car ce sont ses épreuves même qui lui font prendre un vol plus élevé. Paragraphe 1. Elle, dit Thérèse, avant d'exposer les divers modes par lesquels notre Seigneur réveille l'âme, les divers modes sont rapides comme une étoile filante, brusques comme un coup de tonnerre ou douloureux comme une blessure. Cette peine la pénètre jusqu'aux entrailles et les lui arrache quand le divin archer retire la flèche dont il a percé. Paragraphe 4. Ou encore, c'est un ouragan de douceur. Paragraphe 6. Un parfum pénétrant qui se répand dans tous les sens. Paragraphe 6. 8. Dieu réveille aussi l'âme par une autre voie, celle des paroles. Le leitmotiv du petit papillon se répète au début du chapitre 4 intitulé « Dieu suspend l'âme dans l'oraison par le moyen du ravissement et de l'extase, de l'enlèvement de l'esprit, ce qui, à mon avis, est tout un. » Au milieu de ces épreuves, dit-elle, et de bien d'autres, « quel repos pourra goûter notre pauvre petit papillon ? Tout cela ne fait qu'enflammer en cette âme les désirs de posséder l'époux. » Paragraphe 1. Le symbolisme des ailes du désir se transforme maintenant en feu brûlant. L'ardeur du désir fait voler l'âme. Ce vol de l'âme ou du papillon sont les sorties de soi, les ravissements dont elle parle ensuite. Ces épreuves sont les faveurs même que Dieu lui donne, ravissement ou extase, vol de l'esprit ou vision intellectuelle. Elles demandent beaucoup de courage pour les accepter. Ces grâces si élevées font naître en l'âme un désir si intense de posséder pleinement celui qui l'en gratifie que la vie n'est plus qu'un martyr, mais un martyr délicieux. Chapitre 6. L'image du papillon revient au cœur du chapitre 6, intitulé « Cette grâce est véritable et non le fruit de l'illusion ». Ô pauvre petit papillon, lié par tant de chaînes, tu ne peux pas voler au gré de tes désirs. Aie pitié de lui, ô mon Dieu. Voilà une exclamation. Vous ne connaissiez pas l'exclamation du papillon. Dispose les choses pour qu'il puisse, pour ton honneur et ta gloire, réaliser au moins un peu de ce qu'il souhaite. Paragraphe 4. Les désirs du pauvre petit papillon et de Thérèse elle-même sont contradictoires. Elle voudrait à la fois vivre dans les déserts afin d'éviter la moindre imperfection et se jeter au milieu du monde pour aider les âmes à louer Dieu davantage. Elle ajoute, si c'est une femme, elle s'afflige de voir que son sexe la retient et l'enchaîne. Elle envie ceux qui ont la liberté de faire retentir leur voix et de publier les grandeurs du Dieu des armées. Paragraphe 3. Cette confidence de Thérèse d'Avila ravit naturellement tout le sexe féminin. Thérèse Lisieux y répondra en disant que si elle ne peut être missionnaire, prédicateur, etc., elle peut être l'amour au sein de l'Église, et là, la liberté est tout entière. Enfin, à la fin des 7e demeure, Thérèse met en garde celle qui serait tentée de demander de telles faveurs, qui accompagne de telles épreuves. Jugez maintenant si j'ai eu besoin de vous dire qu'elle a besoin de courage et si le Seigneur, au cas où vous lui demanderiez ses faveurs, ne pourrait pas vous faire la même question qu'au fils de Zébédée, pouvez-vous boire le calice que je vais boire ? 7e demeure. Les 7e demeure s'ouvrent pas avec la vision intellectuelle de l'inhabitation de la Trinité dans l'âme et de celle du Seigneur dans le centre de l'âme. Le titre du second chapitre mentionne de nouveau le papillon. Différence, c'est le titre, différence qui existe entre l'union spirituelle et le mariage spirituel, comparaisons qui font comprendre comment meurt ici le papillon. La mort du papillon est mise ici en relation avec le mariage spirituel où l'âme demeure toujours avec son Dieu dans le centre dont j'ai parlé, paragraphe 4. Et là, ils ne font qu'un seul esprit. Je cite, « Peut-être est-ce là ce qu'entendait saint Paul lorsqu'il disait « Celui qui s'unit au Seigneur n'est plus qu'un seul esprit » et voulait-il parler de ce mariage sublime qui suppose que le Seigneur s'est déjà approché de l'âme par l'union. Saint Paul dit aussi « Mihi vivere Christus es mori lucrum » Philippiens 21. L'âme, me semble-t-il, peut maintenant se servir de ces paroles car c'est ici que le papillon expire, mais avec une indicible joie, parce que le Christ est devenu sa vie. Paragraphe 5. Pour vivre vraiment, mi vivere Christi, pour vivre vraiment avec le Christ, il faut mourir, et ceci est un gain, lucrum. Thérèse revient de nouveau au symbole du papillon au début du chapitre 3. Vous voyez, ça scande les débuts de chapitre. Au début du chapitre 3, nous avons dit que notre petit papillon était mort dans une indicible joie d'avoir trouvé son repos et que Jésus-Christ vivait en lui. Voyons maintenant quelle est cette nouvelle vie et en quoi elle diffère de la vie qu'il menait auparavant, car ce sont les effets qui nous montreront s'il a réellement reçu la grâce dont il s'agit. Paragraphe 1. Quels sont ses effets ? Le premier est un oubli de soi si complet qu'il semble véritablement que cette âme n'est plus d'être. La transformation qui s'est opérée en elle est si grande qu'elle ne se reconnaît plus. C'est ce qu'elle avait dit à propos du petit papillon. La métamorphose de l'âme dans le mariage spirituel est-elle... Le deuxième effet est un immense désir de souffrir. Mais ce désir ne cause plus d'inquiétude comme auparavant, car elle n'a plus peur de la mort. La mort, je cite, ne leur inspire aucun effroi, elle l'envisage comme un doux ravissement. Paragraphe 7. De telles âmes vivent dans un grand détachement de toutes choses. Leur attrait constant est d'être seules ou de travailler à l'avancement spirituel du prochain. Paragraphe 8. Nous l'avons déjà entendu. Une fois arrivée là, l'âme n'a plus de ravissement. Les objets même les plus capables d'exciter sa dévotion ne produisent plus le même effet, tandis qu'auparavant, il suffisait pour cela de la vue d'une dévote image, des premières paroles d'un sermon, du son d'un instrument de musique. Le pauvre petit papillon vivait dans une telle anxiété que tout, en quelque sorte, l'effrayait et lui faisait prendre son vol. Paragraphe 12. Le vol du petit papillon est ici les ravissements et le vol de l'esprit. L'exemple qu'elle donne dans les 6e demeure est le ravissement qu'elle eut à Pâques 1571 à Salamanque. Une jeune novice de Ségovie, sœur Isabel de Jimena, chanta d'une voix magnifique « Que mes yeux te voient, doux et bon Jésus, que mes yeux te voient, et ensuite je mourrai. » Et ce chant ravit Thérèse en extase, chapitre 11, paragraphe 8. Elle en fait aussi le récit dans la relation 15, écrite au monastère de Salamanque le 15-16 avril 1771. Le soir, tandis que nous étions réunis, on chanta des couplets sur le tourment de vivre loin de Dieu. Dans l'état de souffrance où j'étais déjà, ce chant produisit sur moi un tel effet que mes mains commencèrent à s'engourdir et toute résistance devint impossible. De même que l'âme sort d'elle-même par des ravissements de joie, elle peut également, par l'excès de la douleur, être suspendue et rester dégagée des sens. Relation 15. Ravissement de joie ou de douleur incontrôlable qui l'effraie. Le pauvre petit papillon vivait dans une telle anxiété. On entend la compassion dans la voix de Thérèse et elle sait de quoi elle part. Mais maintenant, il a trouvé son repos. Je cite, « Soit que le papillon ait trouvé son repos, soit que l'âme ayant vu tant de merveilles dans cette dernière demeure ne s'étonne plus de rien, soit qu'elle ait perdu le sentiment de sa solitude depuis qu'elle jouit d'une si divine compagnie, soit pour quelque autre cause que j'ignore, toujours est-il, mes sœurs, qu'à partir du moment où le Seigneur lui découvre les merveilles de cette demeure et lui en ouvre l'entrée, elle perd cette grande faiblesse qui lui était si pénible et dont rien n'avait pu la délivrer. » Paragraphe 12. C'est ici que Dieu s'unit à l'âme par ce baiser que demandait l'épouse. C'est ici que cette biche blessée étanche sa soif dans les eaux courantes, psaume 41. C'est ici que la colombe trouve le rameau d'olivier, signe qu'elle a trouvé la terre ferme au milieu du déluge et des tempêtes de ce monde, Genèse 8:8. Ô Jésus, que n'ai-je l'intelligence de tant de passages de l'Écriture qui nous décrirait sans doute cette paix de l'âme. Ô mon Dieu, toi qui vois combien cette paix nous est avantageuse, donne aux chrétiens la volonté de la rechercher et conserve-la par ta miséricorde à ceux qui l'ont reçue de toi. Paragraphe 13. Voilà la prière que Thérèse forme pour nous et voilà le repos que cherchait le pauvre petit papillon. Deuxième partie, le fondement autobiographique. Thomas Alvarez, dans son livre sur le château intérieur, a montré de manière magistrale le fond autobiographique du récit des deux demeures. Nous n'allons pas reprendre les parallèles qu'il a déjà établis. En pensant à l'histoire du petit papillon, je voudrais seulement revenir sur le désir de mourir. Thérèse prend comme exemple dans le livre de vie et la troisième relation, Saint Paul qui suppliait Dieu de le libérer de cette vie elle-même et elle-même dira dans le livre de vie, au chapitre 20, « Tout mon désir est de mourir. » Premièrement, je vis sans vivre en moi. À l'époque où Jean de la Croix et Thérèse d'Avila étaient ensemble au couvent de l'Incarnation, c'est-à-dire entre 1571 et 1572, c'est la sensation de victoire sur la mort qui leur fit composer deux poèmes jumeaux sur le refrain « Vivo sin vivir en mí, y tanta alta vida espero que muero porque no muero. » « Je vis mais sans vivre en moi » et mon espérance est telle que je meurs de ne pas mourir. Huit strophes dont Saint Jean de la Croix, dont je ne cite que la seconde. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Cette vie que je vis est privation de vie, et ainsi c'est une mort continuelle jusqu'à ce qu'avec toi je vive. Entends mon Dieu lorsque je dis que cette vie je n'en veux pas, je meurs de ne pas mourir. Huit strophes également de Thérèse dans le poème Vivo sin vivir en mí, dont je ne cite que la première. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero que muero porque no muero. Je vis déjà hors de moi, depuis que je meurs d'amour, car je vis dans le Seigneur qui m'a voulu pour lui. Quand je lui donnais mon cœur, il y inscrivit ces mots, je meurs de ne pas mourir. C'est donc l'espérance d'une vie si haute qui la projette hors de cette vie et hors d'elle-même. Elle a hâte que s'achève cette vie qui est un exil ou une séparation de la vue du Seigneur. Et elle meurt de ne pas mourir, où pourtant elle vit déjà dans le Seigneur et elle meurt d'amour pour lui dans une extase qui la transporte en lui. Je meurs de ne pas mourir, relation 5. Dans la relation 5, écrite peu avant les sixièmes demeures, 1577, Thérèse avait écrit l'état de son âme à cette époque. Il lui semblait qu'elle est dans une solitude si grande, un abandon de tout, qu'on ne peut, tel qu'on ne peut les décrire. En effet, le monde entier et ce qui le concerne lui cause de la peine et aucune chose créée ne lui tient compagnie. L'âme elle-même ne veut que son créateur et le voir est impossible si elle ne meurt pas. Et comme elle ne doit pas se tuer, elle meurt de ne pas mourir, de telle sorte qu'elle est vraiment en danger de mort et elle se voit suspendue entre ciel et terre, ne sachant que faire de soi. Peu à peu, afin qu'elle voie ce qu'elle perd, Dieu se fait connaître à elle d'une manière si extraordinaire qu'on ne saurait le dire, car il n'y a rien sur terre, du moins de toutes celles que je connais, qui lui soit comparable. Relation 5, 14. L'âme meurt de ne pas mourir. Elle se voit suspendue entre ciel et terre, ne sachant que faire de soi. C'est bien le dépaysement du pauvre petit papillon qui ne se reconnaît plus ici et n'est pas encore là-bas. Son trouble, plus que là, bien plus, l'âme ne conçoit que mépris pour les choses ici-bas. C'est ce que dit Thérèse au chapitre 38 du livre de vie. Je cite. Après ces faveurs, dit-elle, mon âme voudrait toujours rester dans cette région supérieure et ne plus revenir à la vie, tant elle conçoit de mépris pour les choses ici-bas. De fait, elle ne semble plus que fumier et je vois combien c'est s'avilir que de s'y arrêter. 38.3. Saint Paul dit qu'il considère tout comme des balayures, Philippiens 3.8, et Cher de Lyon écrit un De contemptu mundi, du mépris de ce monde, œuvre très lue dans le monde monastique. Thérèse parle ici de fumier. Si le premier effet de ces faveurs insignes est de ne plus vouloir revenir à cette vie et de mépriser les choses ici-bas, le second effet est de lui enlever la peur de la mort. Le troisième effet est le sentiment de vivre comme un mourir. Tout ce que je vois des yeux du corps me fait alors l'effet d'un rêve et d'une plaisanterie. Ce que l'âme a perçu de ses yeux intérieurs, voilà ce qu'elle appelle de ses vœux. Et comme elle s'en voit encore loin, elle se sent mourir. Paragraphe 7. Ce sentiment étrange de la vie comme un rêve ou comme un songe, que Thérèse a cité également dans la cinquième demeure, sera repris dans le titre de la pièce de théâtre de Calderón de la Barca, « La vie est un songe », 1635. Pour Thérèse, le songe est ce qu'elle perçoit par les yeux du corps, alors que la réalité est ce qu'elle perçoit par les yeux intérieurs, bien que cette réalité soit voilée. Et comme elle s'en voit encore loin, elle se sent mourir. Ce mourir est causé par l'intensité du désir de voir le bien-aimé, qui devient alors un désir de mourir. Ou souffrir ou mourir, dira-t-elle encore. Mourir et souffrir, là doivent tendre tous nos désirs. Tel est le fondement autobiographique des souffrances, troubles, anxiété du papillon, de son désir de mourir et de sa mort dans une indicible joie. Troisième partie, un paragraphe, le sens baptismal de la métamorphose du papillon. Je voudrais revenir sur la mort du petit papillon. Thérèse écrit dans les septièmes demeures, nous avons dit que notre petit papillon était mort dans une indicible joie d'avoir trouvé son repos et que Jésus-Christ vivait en lui. Chapitre 3, paragraphe 1. Le Christ vit en lui et c'est une allusion au texte paulinien annoncé dans les cinquièmes demeures, le texte de l'Épître aux Colossiens 3, 1, 4. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu, c'est là en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes mort, en effet, votre vie est cachée avec le Christ. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez en pleine gloire. D'où l'injonction de saint Paul, faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre. Et l'opposition au paragraphe suivant entre le vieil homme et l'homme nouveau. Faites donc mourir, nous retrouvons l'injonction dans l'Épître aux Romains dans un contexte baptismal. Ignorez-vous que nous tous, baptisés dans le Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons été donc ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions aussi une vie nouvelle, car nous avons été totalement uni, assimilé à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons donc bien ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché. Faites donc mourir, dit l'apôtre, qu'il meure, dit Thérèse en parlant du ver à soie. Nous avons été ensevelis en lui, dit l'apôtre, que sa majesté devienne notre demeure, dit Thérèse. Afin que nous menions nous aussi une vie nouvelle, dit l'apôtre. Voyez maintenant quelle est cette vie nouvelle et en quoi elle diffère de la vie qu'il menait auparavant, dit Thérèse en parlant du papillon. Ces parallèles pauliniens nous montrent le caractère baptismal de la métamorphose du petit papillon et de son passage de la mort à une nouvelle vie. Conclusion. Il y a trois symbolismes qui s'entrecroisent dans les demeures. Le symbolisme de la progression dans les demeures jusqu'au centre de l'âme, où se fait l'union avec le Christ, le symbolisme nuptial des étapes des fiançailles spirituelles au mariage spirituel, et le symbolisme de la métamorphose du papillon, qui n'est plus spatial, le château, ni intérieur, le centre de l'âme, mais en quelque sorte vital. C'est la transformation même de l'âme à travers la mort et la vie, la mort au monde dans les souffrances de l'arrachement, et la mort mystique dans une indicible joie, avant d'entrer dans la vie éternelle par la mort corporelle. Et cette transformation se fait par le désir, les ailes du papillon. Thérèse décrit le dynamisme irrésistible du désir qui s'ensevelit au tombeau avec le Christ, comme le ver à soie tisse sa coque, et aspire à affronter mille morts et à porter de grandes croix. Désir immense, tel des ailes, les ailes du désir, désir qui est le désir même du Christ qui a désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec nous. La question que nous pose Thérèse est celle de savoir si nous désirons d'un tel désir manger cette Pâque avec lui. Ce désir est une mort continuelle, car la vie présente est une privation de vie. L'âme se meurt au désir de mourir, dit Thérèse dans la sixième demeure, paragraphe 11. En écho à saint Paul, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir c'est un gain. Et encore, vous êtes mort et votre vie est désormais cachée avec Christ en Dieu. Cette citation de Colossiens 3:4 qui est citée dans les cinquièmes demeures 2:4. Mais le désir ne suffit pas. L'entrée dans le cellier ou dans le centre de l'âme est une grâce du Christ. C'est le roi qui conduit la bien-aimée dans le cellier et c'est le Christ qui découvre à l'âme qu'il vit en elle avec le Père. C'est alors qu'elle peut dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Ce centre de l'âme est, je pense, dit-elle, l'inhabitation de Dieu même, où selon moi, il pénètre sans passer par aucune porte. Cette expérience soudaine est une expérience de résurrection, un aperçu, je cite, de la béatitude du ciel. Dans cette ultime demeure, l'âme ne se reconnaît plus comme le ver à soie qui est devenu papillon. Voilà l'histoire du petit papillon. Nous avons voulu simplement montrer que la vie du pauvre petit papillon a un caractère autobiographique et exemplaire. Le livre de la vie de Thérèse est en effet un texte fondateur pour ses carmélites, comme la vie d'Antoine pour les moines, et que Thérèse se fonde, mais qui pourrait en douter, sur le Christ qui conduit l'âme à travers les demeures du château, jusqu'à ce centre où elle s'unit à lui et qui la transforme de vilain petit ver en splendide papillon qui s'envole vers le ciel.
Merci beaucoup pour cet exposé sur la symbolique thérésienne. Thérèse qui montre que lisant l'écriture, elle aussi, elle produit finalement une symbolique qui est liée à son temps et qui retraduit d'une certaine façon la symbolique de l'écriture et qui est pleine de sens pour la vie, pour la vie avec Dieu, pour la vie de la personne. Et qui nous chemine finalement très très bien vers une autre grande symbolique, mais qui est plus qu'un symbole, vers l'Eucharistie que nous pouvons célébrer tout à l'heure.